le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. On va parler santé ce midi et le CHS à Nouville qui veut se doter d'un projet d'établissement et transformer l'offre de soins. On va en parler avec nos invités. Nous recevons ce midi pour en parler Delphine Yagé qui est directrice déléguée du CHS. Bonjour.
Bonjour.
Sophia Defranou qui est cadre supérieur de santé au CHS. Bonjour.
Bonjour.
Et Hélène Goujonc de l'association Hippocampe.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on parle d'un projet d'établissement. Déjà, dans quel contexte ça s'inscrit et qu'est-ce que c'est qu'un projet d'établissement ?
Alors, vous posez une question très pertinente. En fait, tout établissement de santé doit être doté d'un projet d'établissement.
C'est une obligation ?
Alors, c'est une recommandation qui permet en fait de tracer une feuille de route et qui permettent d'embarquer l'ensemble des projets avec un cap, une ambition. Il s'avère que le CHS Albert Bosquet n'a pas de projet d'établissement depuis 2019. Et c'est à ça qu'on a souhaité remédier avec la direction générale et puis l'ensemble de la gouvernance pour avoir cette feuille de route, ce cap, qui nous permette de se projeter durant les 5 prochaines années. Parce que le projet d'établissement qu'on construit aujourd'hui, c'est 2027-2031.
Donc on y retrouve quoi ? Concrètement.
Alors, on y retrouve l'ensemble des axes qui font la vie d'un établissement hospitalier. On va parler gouvernance, on va parler prise en charge des patients, on va parler usagers, on va parler infrastructure, on va parler qualité de vie au travail, ressources. Voilà, donc on essaye d'aborder l'ensemble des projets dans un seul et même document. Après, il vit ce projet. L'idée, c'est de fixer le cap. Et après, alors moi, j'aime beaucoup comparer un projet d'établissement à une partition. On est tous un orchestre avec plusieurs compétences différentes, l'idée différente. L'idée, c'est d'écrire une partition et après de la faire vivre et de la mettre en musique. Voilà, c'est notre ambition.
Alors, il y a eu un projet d'établissement déjà entre 2015 et 2019. Pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi il avait été mis en place à l'époque, ce projet d'établissement ?
Alors, il a été mis en place parce que, comme je vous le disais, chaque établissement est doté d'un projet d'établissement. Ensuite, la direction précédente n'a pas souhaité forcément, et la gouvernance n'ont pas souhaité en reproduire un. Ça leur appartient. En tout cas, depuis la mise en place de la direction commune avec le CHT depuis 2023, c'est un souhait énoncé par la direction générale, de remettre en place un projet d'établissement. Et d'ailleurs, c'est un souhait des professionnels et aussi des usagers, puisque ça manque, clairement.
Mais au niveau de la direction, vous ne décidez pas seul des orientations. Vous avez souhaité aussi associer les soignants, les professionnels, aussi les patients.
Tout à fait. Et je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui parce que c'est le message qu'on souhaite porter aujourd'hui. On travaille avec l'ensemble de nos professionnels de santé et on a associé à cette démarche les usagers, l'ensemble des citoyens en fait, de la Nouvelle-Calédonie, via notamment une consultation citoyenne. Nous avons mis en ligne sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux, un questionnaire qui permet de recenser les besoins. Parce qu'en fait, nous, on cherche à mener un projet d'établissement pour les usagers, mais surtout et avec les usagers. Voilà. Il faut qu'on comprenne leurs besoins pour y répondre au mieux.
Quels sont les grands objectifs alors, de ce projet d'établissement ? On le sait, c'est tracer la feuille de route, mais est-ce qu'il y a des axes prioritaires ? Que ce soit la gouvernance ou l'offre de soins, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont presque urgentes à mettre en place et à définir ?
Alors, la transformation des prises en charge, elle est urgente. Ça, c'est clairement ce qu'on s'est dit aussi la semaine dernière. Vous savez qu'on a invité un éminent professeur, le professeur Franck, qui nous a parlé de l'accompagnement au rétablissement des personnes. C'est ce vers quoi on veut tendre pour nos prises en charge. On veut transformer ça, on veut transformer ce modèle. Et notamment, mettre en conformité nos prises en charge et nos infrastructures suite aux différentes recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui contrôle généralement tous les établissements de santé spécialisés si vous voulez, faire respecter les droits et libertés de nos patients. Et donc, pour répondre à ces recommandations-là, on va élaborer ce projet d'établissement en ce sens.
À l'époque, il avait pointé un certain nombre de dysfonctionnements, et notamment dans la prise en charge des patients. Ça pouvait être quoi et comment on y répond ? Peut-être ?
Alors, merci de me passer la parole. Il y a différentes choses, notamment c'est dans la prise en charge à la fois sur le respect des droits et libertés de nos usagers, notamment dans leur liberté d'aller venir, dans les conditions d'accueil, dans le respect de leur dignité, de leur intimité. Donc il y a tout un travail qui est en cours depuis effectivement un certain nombre d'années justement sur la mise en conformité effectivement à la fois des locaux, des infrastructures, mais aussi dans notre organisation de travail et d'accompagnement des usagers. des usagers, justement sur ce respect des droits et libertés, sur les documents qu'on peut leur transmettre, sur les informations qu'on peut leur communiquer également. Il y a tout un travail aussi de montée en compétences et de formation qui ont été proposées aux professionnels. Aujourd'hui, on a deux formateurs Oméga au sein de l'établissement. C'est une formation très spécifique en psychiatrie qui permet effectivement notamment d'apprendre des techniques qu'on appelle de désescalade, de pacification, et qui permettent d'accompagner les usagers qui ont parfois des risques de passage à l'acte, hein, au regard de leur pathologie. Ils ont besoin d'être rassurés et d'être accompagnés, et c'est cette formation notamment qu'on propose à l'ensemble des professionnels du CHS nous permet effectivement de faire monter en compétence nos professionnels. Donc il y a un ensemble effectivement d'axes qui sont travaillés pour cette mise en conformité au regard des recommandations du CGLPL.
C'est-à-dire que les pratiques ont évolué avec le temps et peut-être même rapidement au cours des dernières années dans cette question de la prise en charge de la santé mentale ?
Exactement, exactement. Effectivement, depuis ces deux dernières années, il y a à la fois cette formation qui est proposée, mais il y a également d'autres axes qui sont travaillés, notamment aussi sur la vie affective et sexuelle des usagers. Là, il y a des choses qui vont aussi commencer. Il y a tout un travail aussi au niveau du respect en termes d'isolement et de contention. Donc, effectivement, il y a tous ces axes qui sont abordés. Comme l'a dit Delphine Yager, la semaine dernière, le professeur Franck était présent. 45 professionnels ont pu participer, professionnels et usagers ont pu participer à cette formation qui est tournée autour du rétablissement. Donc nous, en tant que centre hospitalier spécialisé, on va notamment formaliser, développer des outils autour de la réhabilitation psychosociale. Mais après, il y a effectivement tout ce travail qu'on va mailler aussi avec les partenaires et avec les usagers pour accompagner les patients vers le rétablissement.
Est-ce que ces nouvelles pratiques, cette nouvelle offre de soins change aussi le regard que l'on porte sur le CHS ?
Concrètement, tout à fait. Ce qu'on sait, et puis je pense que Hélène Goujon pourra plus particulièrement vous en parler, la stigmatisation, elle est toujours extrêmement présente vis-à-vis des usagers de santé mentale. Ce qui est aussi très prégnant, c'est l'auto-stigmatisation. C'est-à-dire que les usagers, en fait, sont face effectivement à ce regard de la société de façon générale, hein, même si les choses évoluent dans l'éducation nationale, les choses évoluent on va dire dans les différentes institutions. Pour autant, il y a toujours une appréhension autour de la santé mentale, souvent rattachée à des situations, des événements graves. Or, la santé mentale, elle nous touche tout un chacun. Et donc, les usagers, malheureusement, sont face à parfois des situations de rejet, des situations d'incompréhension. Et quand ils s'auto-stigmatisent, en fait, c'est très difficile pour eux d'aller vers un parcours de rétablissement.
Hélène Goujon, peut-être rappeler le rôle de l'association Hippocampe aussi et le regard que vous portez sur ces travaux qui sont menés aujourd'hui.
Notre association qui existe depuis maintenant sa 12e année de fonctionnement. Notre projet, nos objectifs, c'est d'aider les familles, mais aussi les personnes directement concernées. Donc, évidemment qu'on va tout à fait dans le sens de ce qui se passe en ce moment. Je tiens quand même à dire que la collaboration avec le CHS ne date pas de maintenant. Depuis pas mal d'années, on participe aux sessions, ce qui se dit, c'est-à-dire de psychoéducation envers les familles et leurs proches. Donc oui, on a ce maillage-là quand même, notamment des gens de l'HDJ qui viennent avec les patients nous rencontrer à la Villa de Coutiot. Donc il y a quelque chose. Mais là, on est passé à une vitesse supérieure, c'est-à-dire que vraiment maintenant, on est partenaire dans les instances du CHS, c'est-à-dire la commission des usagers, le projet d'établissement. Et donc, la semaine dernière, on a même été associé dans la formation. C'est-à-dire que cette formation de l'équipe de Lyon, elle était en direction des personnels, mais pas que. Il y avait donc nous en tant qu'association et aussi des personnes porteuses du handicap psychique. Donc, c'est vraiment une vision très inclusive et donc du coup qui va dans le sens de mieux s'adapter aux besoins, de vraiment mettre au cœur les besoins des personnes. Et il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais mentionner. Ce que j'espère beaucoup sur l'avenir, puisque justement je suis encore toute imprégnée de la formation qu'on a eue la semaine dernière, et l'équipe de Lyon a dit quelque chose qui nous marque vraiment, qui moi m'a marqué vraiment, en tant qu'association des familles et des personnes porteuses du trouble psychique, c'est que ce que dit le professeur Nicolas Franck, c'est les parents, les proches, sont des patients comme les autres. C'est-à-dire que là, ce qui va venir, si tout se passe dans cette direction-là, c'est que les familles, les proches vont être beaucoup plus entendus qu'auparavant. Et on va prendre soin d'eux aussi. Parce que par expérience, les parents, au départ, quand s'annonce tout au début de la maladie de leurs proches, il y a un fort isolement, il y a une forte détresse. Et donc, il faut que ces patients-là, ces proches-là, ils soient aussi pris en charge dans le soin.
Mmh. Au-delà des difficultés que ça peut représenter pour la famille, on a le sentiment qu'il y a une meilleure prise en considération des familles, que ce soit les aidants au cours des dernières années, ou même quand on a vu le Galieni de la Santé, il y avait aussi les usagers qui étaient représentés dans les différentes réflexions. Est-ce que, au-delà de la gouvernance et de la mise en place d'une feuille de route, est-ce que, d'un point de vue de la guérison, ça aide d'avoir des familles qui sont aussi accompagnées, qui font aussi partie prenante dans les différents projets de l'établissement ?
Tout à fait. Un usager, en fait, il a besoin d'un ensemble de choses autour de lui, c'est-à-dire à la fois c'est ce que du soin, et effectivement, notamment au niveau du rétablissement, ce sont des outils de réhabilitation psychosociale, et c'est la façon dont on va pouvoir proposer aussi des programmes de psychoéducation, des programmes d'accompagnement, mais également c'est toute la partie effectivement de thérapeutique médicamenteuse, l'accompagnement médical, les entretiens aussi avec les professionnels de santé, mais c'est aussi dans quel environnement ce patient évolue, notamment quelles sont ses ressources autour de lui. Donc ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être différentes choses, ça peut être aussi des associations, comment on peut relayer aussi auprès du tissu associatif pour que l'usager puisse retrouver sa place dans la cité. Donc on a à travailler sur l'ensemble de ces aspects effectivement pour accompagner au mieux les usagers.
Vous avez parlé de réhabilitation psychosociale, concrètement qu'est-ce que c'est ?
Alors, effectivement, ce sont des outils de soins destinés, qui vont permettre effectivement de participer du rétablissement des patients. Alors, je parlais de psychoéducation. Je donne pour exemple effectivement le programme SkizDi, qui est un programme de psychoéducation, mais qui associe à la fois les usagers et leurs familles ou leurs proches. On a aussi des programmes qui peuvent tourner autour des habiletés sociales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend le bus, par exemple, comment est-ce que on peut aller faire ses courses, comment on peut gérer un budget. Ça peut être aussi des programmes autour des thérapeutiques médicamenteuses, quel traitement aujourd'hui m'est prescrit, quels peuvent être les effets secondaires, comment je peux être accompagnée autour de ça, comment je peux communiquer auprès du médecin si j'ai trop d'effets secondaires. Donc voilà, ça fait partie effectivement de ce qu'on peut proposer. Aujourd'hui, sur le CHS Albert Bouquesquet, on a ce qu'on appelle des nouveaux ateliers thérapeutiques, qui proposent effectivement notamment des activités spécifiques et aussi des groupes de parole et des accompagnements autour notamment de la remédiation cognitive et des habiletés psychosociales.
Je parlais tout à l'heure de changer l'image du CHS. J'imagine que c'est un travail de longue haleine de changer cette image pour les Calédoniens. Comment vous comptez vous y prendre ?
Alors justement, on parlait tout à l'heure des axes du projet d'établissement. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de donner la parole. Donner la parole aux usagers, donner la parole aux familles, donner la parole aux citoyens de Nouvelle-Calédonie. Le CHS est expert en psychiatrie, c'est le seul établissement public de psychiatrie de Nouvelle-Calédonie. Mais la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Donc il s'agit de travailler, nous, établissement de santé, avec l'ensemble des acteurs qui travaillent en santé mentale aujourd'hui, et de donner la place effectivement davantage aux usagers, que ce soit dans l'élaboration de notre projet d'établissement, mais aussi dans nos projets quotidiens, et dans notre gouvernance aussi. Et en donnant la place, et en donnant la parole aussi, on cherche à déstigmatiser la santé mentale. C'est un l'axe, je dirais, principal de notre projet d'établissement. Parce que, alors, deux raisons nous ont amenés à faire ce constat. Le premier, c'est que la santé mentale, en général, est stigmatisée, encore aujourd'hui. Elle est grande cause nationale en 2025. Il y a une raison pour laquelle elle a été établie comme cela. Et en Nouvelle-Calédonie particulièrement, le CHS hérite d'un historique lourd et qui est encore très présent aujourd'hui dans la société de Calédonie. Donc on hérite de tout cela en se disant que c'est à nous d'aller vers, de déstigmatiser, de donner la parole, d'en parler. Merci encore de nous accueillir aujourd'hui pour ça, parce que c'est aussi notre travail de déstigmatiser et d'aider à faire ce travail-là.
Est-ce que cette stigmatisation, ça fait que certains patients ne viennent pas jusqu'à vous ?
Bien sûr. Oui, ça fait... Le renoncement aux soins et la difficulté d'accès aux soins, elle est très présente en Nouvelle-Calédonie. Mais clairement, il y a une peur aussi de l'hospitalisation au sein du CHS, de la psychiatrie en général. Oui, c'est très étiqueté.
Donc vous devez communiquer sur les soins aussi que vous pratiquez là-bas ?
On doit communiquer sur ce que c'est que un trouble psychique, comment on se soigne. Tout ne passe pas par de l'hospitalisation, loin de là. Et ça, je pense qu'il va falloir encore qu'on le répète, qu'on le rappelle, qu'on l'explique surtout, parce que c'est pas forcément bien compris ni su. Et aussi développer justement tous les à côté de l'hospitalisation, hein, l'ambulatoire. On en parle beaucoup en MCO, mais en fait, le sujet est exactement le même en psychiatrie. C'est aller vers, développer l'ambulatoire, les équipes mobiles, etc. On a un gros travail pour aller auprès des populations, surtout avec les difficultés aussi d'accès géographique en Nouvelle-Calédonie.
Le CHS, on parlait des infrastructures tout à l'heure, on sait qu'il est situé à Nouville, qu'il y a des questions aussi de montée des eaux, qu'il y a des questions qui sont autour de ça, et qu'il y a un projet peut-être long terme aussi de réaménager le CHS ou pas du tout. Est-ce que ça rentre dans ce cadre du projet d'établissement ?
Actuellement, on cherche surtout à faire correspondre les infrastructures à nos projets d'unité et à notre projet d'établissement. Notamment, vous savez qu'on a eu aussi des locaux qui ont été incendiés durant les émeutes de 2024, donc on a relocalisé certaines unités. L'idée aujourd'hui, c'est de faire correspondre la place du CHS aussi dans la ville de Nouméa, et d'être au plus près des populations qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'accèdent pas forcément aux soins. On a plusieurs unités extra-hospitalières qui ne sont pas que situées à Nouville. Donc dans cette perspective-là, voilà, on essaie d'utiliser notre patrimoine au mieux pour répondre à ces besoins.
Aujourd'hui, toutes les méthodes, toutes les offres, tous les soins sont possibles en Nouvelle-Calédonie, ou il y a des méthodes qu'il faudrait encore faire venir, peut-être que vous regardez ailleurs dans ce qui se passe ?
Mais tout à fait. Et d'ailleurs, l'objectif aussi de notre projet d'établissement et de nos projets actuels, c'est d'ouvrir nos partenariats. Donc on l'a fait avec professeur Franck et professeur Poulet. Professeur Poulet vient aussi du Vinatier et il nous aide à monter une unité de neuromodulation.
Il était venu il y a quelques mois.
Il était venu il y a quelques mois sur ce sujet. Il a formé nos équipes. Il en a parlé d'ailleurs lors d'une conférence, encore une fois, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Pardon. Et on souhaite créer une nouvelle offre de soins. Alors, il y a plusieurs pratiques, la sismothérapie, la RTMS, c'est un peu technique, mais ça permet notamment de traiter, alors je pense à la dépression ultra-résistante par exemple, c'est des maladies qui peuvent se soigner grâce à de telles techniques qui n'existent pas à l'heure actuelle sur le territoire. Et donc notre volonté, en partenariat avec le CHT, c'est de développer ce type de technique en Nouvelle-Calédonie.
Donc ça demande quoi ? Du matériel, j'imagine de la formation aussi ?
Oui, matériel, formation, expertise. Et vraiment d'être accompagné par un centre expert sur le sujet va beaucoup nous aider.
Et ce partenariat, il va s'inscrire dans la durée ou c'est uniquement sur la période de mise en place de ce projet d'établissement ? Comment vous voyez les choses ?
Ah non, pas du tout. C'est un accompagnement sur la durée. Alors, ils sont venus, les équipes à la fois de professeur Franck et professeur Poulet sont venus nous voir. Je pense que c'était aussi nécessaire pour eux qu'ils se rendent compte des réalités en Nouvelle-Calédonie. C'est important d'être sur le terrain pour comprendre. Et derrière, de nous aider à développer une offre de soins qui est adaptée aussi à la Nouvelle-Calédonie, aussi et surtout à la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ces partenariats se font sur le long terme. On a des conventions qui ont été approuvées par nos conseils d'administration respectifs et qui vont nous permettre de travailler dans le temps ces questions-là. Et d'ailleurs, nous allons prévoir une mission, une délégation du CHS qui va aller voir sur place aussi ce que proposent les équipes du professeur Franck et du professeur Poulet à Lyon.
On parlait tout à l'heure de la vie quotidienne des patients. Est-ce que vous accompagnez jusqu'à la sortie ou est-ce qu'une fois que la personne est sortie du parcours de soins, il est abandonné dans la nature ou est-ce que vous l'aidez à peut-être se réinsérer dans la vie sociale de manière plus classique pour certains ?
Alors, tout va dépendre, bien sûr, de l'usager et de ses besoins, et de ce qu'il demande aussi, hein, puisqu'on doit bien sûr respecter ce qu'il souhaite. De façon globale, voilà, on a tout ce travail dont parlait justement Delphine Yagé, d'accompagnement, d'aller vers et d'équipe mobile. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on doit axer les choses dans les années à venir, pour justement accompagner au mieux les patients qui ont pu être hospitalisés. L'idée, quand même, c'est, et on l'a vu d'ailleurs avec les éléments communiqué par le professeur Franck, c'est de limiter toujours le recours à l'hospitalisation parce que ça peut être un vécu délétère pour certains usagers. Donc on doit justement travailler sur les alternatives au recours à l'hospitalisation. Quand l'hospitalisation est nécessaire, eh bien, proposer l'accompagnement adapté et ensuite travailler effectivement ce retour chez soi ou ce retour éventuellement dans sa famille. Il y a tout un travail effectivement qui est proposé par le CMP Gallieni aujourd'hui, par l'hôpital de jour Clémenceau dont a parlé Hélène Goujon, et puis aussi les nouveaux ateliers thérapeutiques qui peuvent proposer des prises en charge adaptées. C'est du sur-mesure en fait, en fonction de chaque usager et de ce qu'il souhaite aussi faire pour sa vie quotidienne.
Qu'en pensent les patients très concrètement de ces changements d'orientation?
Alors, je vais laisser Hélène.
Enfin, à part les usagers qui participent aux instances, oui, ça c'est un changement, parce que de pouvoir participer à une formation de haut vol en plus, de pouvoir participer au projet d'établissement, etc. Enfin, voilà, eux ils voient le changement, mais pour l'instant, comment dire, le changement il est pas là. Pour l'instant, il est en train de se projeter. Moi, je voulais revenir justement puisque vous parliez de l'après. L'après prise en charge, alors des fois avec ou non hospitalisation, mais je pense que voilà, l'hôpital de jour fait un travail pendant un temps pour que la personne elle se reconstruise un peu, qu'elle arrive vers quelque chose. Nous, de notre côté, c'est à peu près la même chose, mais hors institution. C'est-à-dire que avec notre logique à nous d'association, il n'y a pas de soignants avec nous. On travaille autrement. Donc, justement, ce qu'on a développé lors du colloque de vendredi dernier, c'est de montrer que l'association Hippocampe fonctionne beaucoup sur la confiance aux patients. C'est-à-dire qu'ils sont passés par des situations de crise et ils se reconstruisent. Donc nous, par exemple, le véhicule de l'association, il est conduit en majorité par les patients eux-mêmes, après évidemment avoir validé le droit. Alors voilà. Donc il y a plein d'actions comme ça pour l'empowerment des personnes. Ce qui manque, je pense, après, c'est des projets vraiment ambitieux, dans l'économie sociale et solidaire. Hein. Ça a été voté, je pense, l'an dernier, il me semble, au Congrès. Et donc, de pouvoir monter peut-être des établissements style ESAT pour permettre aux personnes d'aller vers le travail avec vraiment un milieu qui s'adapte à leurs difficultés. Et parce que en fait, justement, quand vous dites mais qu'est-ce que pensent les patients, ils veulent tous une vie normale. Eux, ils veulent avoir une maison, une voiture, être bien dans la cité, un travail. Enfin voilà, ils veulent vivre entre guillemets normalement comme tout le monde. Donc l'accès au travail est très dur dans la société dans laquelle on vit, surtout en plus, bon, depuis les crises économiques 2019 et puis 2024, où l'accès à l'emploi est très difficile. Donc peut-être c'est à nous de créer justement des conditions petit à petit, mais des conditions de permettre aux personnes d'aller, même si c'est un petit temps partiel ou quoi, mais de sortir de ça, pour être vraiment inclus dans la cité.
Comment ça se passe maintenant ce projet d'établissement? Il y a différentes réunions, vous avez donc ouvert un questionnaire, on l'a vu. Quel est le rétro-planning, entre guillemets?
Alors, ce projet d'établissement, il a été, toute la méthodologie a été présentée à nos instances. On l'a lancé avec plusieurs choses. Déjà, on a voulu, encore une fois, recueillir la parole. Donc, on a lancé une consultation citoyenne, un questionnaire public, qui a été aussi transmis au cabinet de médecins généralistes, libéraux, à l'ordre des médecins, au CMS, pour recueillir le plus possible la parole. Et au CHS, on a créé un groupe de travail composé de professionnels et d'usagers, de représentants aussi des usagers, qui se réunit tous les mois et qui travaille à élaborer ce projet d'établissement. C'est très concret. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, ils sont en train d'y travailler. On va d'ailleurs les rejoindre juste après pour pouvoir définir notamment les objectifs des axes structurants qu'on a déjà commencé à élaborer. Donc, c'est très concret et l'idée, c'est que ça parte du terrain. Sachant qu'on n'a pas attendu ce projet d'établissement quand même pour changer les pratiques hein, au CHS, loin de là. Et je rebondis notamment sur ce que disait Hélène Gouvion. Nous avons mis en place pour essayer de ramener une vie normale, comme vous dites, aux patients, de créer des appartements thérapeutiques. C'est un partenariat qu'on a lancé avec la SIC l'an dernier et qui nous permet de proposer à une dizaine de patients de sortir complètement d'hospitalisation complète du CHS. Hein. Pour certains, c'est des gens qui étaient hospitalisés depuis très longtemps. Et d'être inclus dans la cité, de vivre dans un appartement en colocation de manière la plus normale possible, tout en ayant évidemment un lien avec le CHS, et puisqu'on leur propose toujours des activités thérapeutiques, etc. Donc c'est des évolutions qu'on a engagées déjà il y a maintenant plusieurs mois. Et ce projet d'établissement, il vise aussi à recueillir tout ça. Hein. On ne fait pas table rase, ni on se projette pour dans 10 ans. C'est vraiment faire un état des lieux, constater, inclure les projets dans notre ambition, et évidemment se projeter vers l'avenir.
Il sera prêt quand ce projet d'établissement alors ?
D'ici à la fin de l'année.
Pour une mise en place, donc vous l'avez dit, sur 5 ans à partir de 2027. C'est l'établissement qui décide son projet d'établissement ou est-ce qu'il y a un pilotage politique aussi derrière ?
Alors, vous avez raison de le mentionner, on a fait un certain nombre de constats et un diagnostic avant de lancer les sujets relatifs au projet d'établissement. On s'est appuyé sur divers documents. On a parlé du rapport CGLPL, on s'est aussi inspiré des recommandations qui ont pu être émises par la Chambre territoriale des comptes, le schéma de santé mentale. Voilà, on a pris un certain nombre de documents qui existent sur la santé en Nouvelle-Calédonie pour nous construire.
Si on veut répondre à ce questionnaire, déjà, qui peut y répondre ? Est-ce que tout un chacun peut y répondre et où on le retrouve ?
Alors, tout un chacun peut y répondre et c'est vraiment notre ambition. C'est que, si possible, tout le monde puisse participer à ce projet, puisse donner son avis et peut-être des idées. Il y a des excellentes idées qui sont nées des patients qu'on a repris vraiment dans notre projet d'établissement, etc. Et la deuxième question, c'était de savoir où il était. Donc, on l'a mis en ligne sur le site internet du CHS. Et sinon, il est accessible via les réseaux sociaux. Donc, on communique sur LinkedIn et Facebook, notamment. Et puis, comme je vous le disais, on l'a aussi envoyé par mail aux médecins libéraux. Différents professionnels de santé, tout à fait.
Eh bien, merci à toutes les trois d'être venues ce midi dans ce magazine citoyen pour nous en parler. Rendez-vous donc en fin d'année pour la présentation de votre projet d'établissement. Le rendez-vous
merci.
Est pris. La suite sur Radio Rythme Bleu, c'est le Café Gourmand à 13h, le rappel des titres.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.